Allons-y, stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier Instant M de la semaine.
C'est bon, coupé ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Interview exclusive et exceptionnelle de Jed Mercurio sur France Inter. Il est considéré comme l'auteur britannique le plus successful du moment. Line of Duty, enquête interne que vous avez vue sur France 3, c'est lui. Bodyguard, dont 10,5 millions de téléspectateurs anglais ont regardé le dernier épisode le soir de sa diffusion, c'est encore lui. Série en 6 épisodes devenue un succès planétaire grâce à sa diffusion sur Netflix. Le festival série-série qui se promène partout en Europe et qui fait venir l'Europe chez nous. Et l'ambassade de Grande-Bretagne reçoivent aujourd'hui Jed Mercurio à Paris pour une journée de rencontres consacrée à la fiction britannique. Et s'il fallait ne choisir qu'une facette de la fiction britannique, je choisirais celle-là. Les Anglais ont une tradition et un savoir-faire qu'on ne trouve pas en France, celui de la fiction politique. La télévision s'empare là-bas sans tabou des jeux de pouvoir impensables chez nous.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Salam alaikum. Je veux simplement discuter. Rien de plus. Je vois que vous avez aussi peur que moi. Tout ce que je veux, c'est vous aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez changer d'avis. Non, ne faites pas ça, ne le faites pas. Surtout ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez pas. Je vous en prie, ne bougez surtout pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bienvenue dans la série de la BBC Bodyguard qui a battu tous les records d'audience en Angleterre. C'est même le programme télé le plus vu là-bas après la Coupe du Monde de foot. Un thriller sur fond de menaces terroristes qui vous plonge dans une guerre des polices et du renseignement. Bonjour, Jed Mercurio. Jed Mercurio qui se fait traduire. Bonjour et soyez le bienvenu.
Bonjour, merci.
Voilà, Jed Mercurio qui avait du mal à reconnaître sa propre série diffusée en français. Alors exceptionnellement, pas de jeu, pas de Madeleine ce vendredi pour laisser un peu plus de temps à notre invité. Mais Bruno Denet est là avec sa semaine médiatique. Salut Bruno.
Good morning.
Good morning. Avant-hier, Bruno, vous avez regardé de quelle façon les JT ont traité l'entrée en vigueur de la loi alimentation et vous êtes tombé sur une perle, car TF1 et France 2 ont expliqué rigoureusement le contraire.
Oui Sonia, vous savez que j'ausculte régulièrement ici les bourdes, les loupés, bref, les petites conneries qui se glissent parfois dans les journaux télévisés, mais vous savez aussi que si je le fais, c'est parce qu'elles sont toujours symptomatiques. En effet, elles signent généralement le manque de rigueur de leurs auteurs, la trop grande rapidité avec laquelle ils travaillent, leur manque de moyens ou encore de jugeote. Mais là, la toile sur laquelle je suis tombé est d'une toute autre nature, car elle témoigne non pas de la légèreté de celle qui l'a commise, mais de l'ineptie totale d'une décision politique.
Allons bon.
Alors je vous raconte. Mercredi, les JT avaient donc choisi de s'intéresser à l'augmentation Maus qui va s'abattre sur les prix des produits de première nécessité.
Les prix du Crunch, du Nutella, des Chocapic et du Ricard pourraient bien exploser vendredi prochain.
Le 20h de France 2 en avait fait son ouverture et le 13h de TF1 son deuxième titre.
Plus 8,4% la pâte à tartiner, plus 8,6% le camembert.
Une grosse augmentation des prix en pleine période de grands débats sur le pouvoir d'achat, voilà qui nécessitait des explications.
Tout vient de la loi alimentation, votée en octobre dernier.
Le 13h de TF1 a commencé à nous en fournir et sur France 2, après qu'Anne-Sophie Lapix a exposé la grande nouveauté de la loi.
Cette loi interdit de vendre des produits sans aucune marge, comme l'ont souvent fait les distributeurs pour attirer des clients.
La journaliste qui signait le reportage nous a précisé ce qu'elle stipulait au sujet des marges des distributeurs.
À l'avenir, cette marge sera forcément égale ou supérieure à 10%.
Voilà, interdiction formelle de vendre à prix coûtant, obligation de faire des marges au moins égales à 10%. On comprenait donc parfaitement bien que si les prix allaient grimper, c'était parce que les marges des hypermarchés étaient tenues d'augmenter. Et pourtant, que nous a dit dans son sujet la madame de TF1 ?
Mais pour que ce ne soit pas le consommateur qui paye plus, ce sont les grandes surfaces qui sont priées de réduire leurs marges.
Que les marges allaient BCN n'a donc strictement rien compris à ce qu'elle était censée nous expliquer et nous a raconté absolument n'importe quoi. Mais est-ce que c'est si grave? Eh ben ça, c'est pas sûr. Pourquoi? Eh ben parce que c'est la loi que nous ont pendu les cracks du gouvernement qui est totalement surréaliste. Surréaliste car elle repose sur un pari hallucinant qu'aucun mécanisme n'encadre et que France 2 a parfaitement résumé.
Le pari du gouvernement, qu'avec cet argent récupéré, la grande distribution achète plus cher les produits aux industriels et qu'ensuite, les industriels rémunèrent mieux les producteurs.
Voilà, vous avez bien entendu, c'est du billard à trois bancs, du ruissellement hypothétique, de la grande distribution vers les industriels, puis des industriels vers les agriculteurs, t'as qu'à croire, comme si tous ces gens-là étaient des philanthropes patentés et des amoureux transis du travail des éleveurs. Alors, à un moment où les Français hurlent leurs problèmes de fin de mois, où les agriculteurs ne gagnent plus un radis, qu'une journaliste se soit dit « nom d'une pipe, c'est pas possible, j'ai dû me gourer quelque part, des ministres n'ont pas pu être couillons au point de demander à Carrefour et Leclerc de s'en mettre encore plus dans les poches », eh bien vous, je sais pas, mais moi je trouve ça finalement assez rassérénant, car si comme je vous le disais en préambule, les bourdes sont toujours hautement symptomatiques, il arrive qu'elles témoignent non plus des troubles cognitifs des journalistes, mais bel et bien de ceux dont ils sont chargés de nous causer.
Ouf. Très en forme notre Bruno Donnet hebdomadaire, à réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Jed Mercurio écrit et produit Bodyguard. David Budd, garde du corps de la ministre de l'Intérieur, Julia Montague, femme froide et autoritaire à la manœuvre entre service de police et service de renseignement.
Nous sommes toujours en train de reconstituer tous les événements autour de l'attentat.
Et si vous y parvenez, aurez-vous l'amabilité de nous en faire part?
Bien sûr. C'est évident.
Lorsqu'il vous apparaît clair que ces individus se rencontraient pour préparer une attaque, vos services en ont-ils fait part à la sécurité intérieure?
Sauf votre respect, je ne vois pas comment cela aurait
j'ai
pu modifier le cours des événements.
J'ai de plus en plus de mal à croire en la capacité de la police à progresser rapidement. C'est pour ça que j'ai l'intention d'accepter la proposition de Steven, à savoir que la sécurité intérieure se charge d'interroger les kamikazes de l'attentat raté du train.
Je vous remercie.
Madame la ministre, vous êtes en train de créer un très dangereux précédent.
Il me semblait pourtant que nous étions tous d'accord. Cela relève des compétences de la police.
Jed Mercurio, vous êtes le seul à écrire à la fois des séries médicales et des thrillers policiers. Bon, ce sont des registres classiques à la télévision, mais ils ont en commun pas seulement un grand potentiel dramaturgique, évidemment, aussi la possibilité d'offrir un regard très critique sur les institutions publiques.
Effectivement, c'est probablement mon moteur en tant qu'auteur, c'est voir les institutions. Ça a été intéressant, par exemple, dans les séries médicales que j'ai pu faire. J'ai travaillé moi-même comme médecin en milieu hospitalier. J'ai eu l'occasion de me faire une idée, justement, du service public avec, effectivement, une corruption actuellement des valeurs, et c'est un terrain tout à fait un terreau intéressant pour une série dramatique. On peut créer des situations de danger, de conflit, et c'est particulièrement utile dans une série policière de type thriller où on veut vraiment qu'il y ait un véritable risque et un suspense où on ne sait pas ce qui va se passer.
Voilà, évidemment Line of Duty, hein, votre précédente série qui se poursuit, portait déjà sur la corruption de la police. Alors Bodyguard, je l'ai dit, c'est sur fond de menaces terroristes. C'est un débat sur la révision d'une loi sur la sécurité intérieure, sur le renseignement, sur la surveillance. Votre ministre de l'Intérieur, Julia Montague, veut durcir le renseignement. Il y a eu en Angleterre des dizaines d'articles et de débats. Est-ce de la fiction? Est-ce de la réalité?
En fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est un débat qui, effectivement, a cours actuellement. Il est tout à fait d'actualité. Et c'est un débat, d'ailleurs, qui, à mon avis, va rester d'actualité encore un certain temps. Car la grande menace à la sécurité publique actuellement, c'est bel et bien le terrorisme. Et c'est un sujet vraiment d'actualité au 21e siècle. Surtout le terrorisme, en fait, qui ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Et dans Bodyguard, c'est ce qu'est-ce que l'on voit ? On voit si parfois il y a manipulation des influences militaires des démocraties occidentales ensuite au Moyen-Orient qui nous reviennent. Et on voit notre héros, David Budd, justement, c'est un ancien qui est revenu de l'Afghanistan, un vétéran, et ce garçon-là vraiment a très mal vécu ce qui s'est passé là-bas, le fait d'avoir été envoyé au combat, et il se rend compte qu'au final, toutes ces choses qui ont été faites, ça a plutôt nuit à la sécurité plutôt que la renforcer.
Justement, on va vous faire écouter un extrait de David Budd, ce personnage qui est revenu d'Afghanistan. Il est comme un soldat, un robot, un flic en train de se détraquer.
J'essaie de mettre tout ça derrière moi. Je tente un retour à la vie civile.
Et j'imagine que syndrome post-traumatique sur un CV, ça fait pas rêver les recruteurs. Pas vrai ? C'est pas parce que ça se voit pas. Mon vieux, t'arriveras jamais à t'en sortir seul.
Ouais, je vais bien, merci.
Parce que c'est ça que raconte également Bodyguard, c'est que les décisions politiques ont des conséquences bien réelles sur la vie des hommes.
C'est exactement ça. Et ça fait partie de tout le tissu, le contexte affectif. On voit ce qu'il a subi, tout ce qu'il a abîmé. Et il a vraiment, il est très très remonté à l'égard de cette classe politique qui envoie les jeunes au combat pour servir leurs objectifs politiques à eux. Et évidemment, ils vont au Parlement, ils votent et après ils rentrent tranquillement à la maison, tandis que les soldats, eux, vont sur place. Ils voient des choses terribles, ils subissent des traumatismes énormes. Et ça va créer en fait la difficulté pour notre personnage dont on raconte l'histoire, c'est-à-dire que ce garçon-là, il est tellement remonté à l'égard de la classe politique qu'il peut risquer de devenir une menace pour la personne qu'il est censé protéger.
Paranoïa, quand tu nous tiens. Exemple de coulisses politiciennes en Angleterre.
J'aimerais me rendre à la Chambre, si ça ne te dérange pas, Roger.
Tu prévois de court-circuiter le débat sur le terrorisme pour ta petite promotion personnelle ?
Il y a un but à cette conversation.
Pourquoi tu ne réponds pas à mes coups de fil ? Je suis ton chef de parti, alors quand je t'appelle, tu réponds. On se positionne au centre et toi, tu fais du hors-piste à droite ?
Le Premier ministre peut compter sur mon fidèle soutien.
Mensonge, il est affaibli. Tu prépares un coup pour prendre sa place.
Jed Mercurio, il y a en Angleterre une tradition de la fiction politique à la télévision que nous n'avons pas en France. Des téléfilms et des séries politiques souvent très réalistes, qui transposent parfois des faits réels, mais des faits aussi récents. En France, on attend parfois 30 ans pour qu'une série télé raconte les coulisses de notre politique. On a beaucoup de mal et beaucoup de tabous à transposer des hommes politiques réels à l'écran. D'où vient cette capacité anglaise à raconter la politique à travers la télévision ?
Je pense que c'est une remarque très intéressante et ça fait effectivement un certain temps qu'on n'avait pas de séries dramatiques politique à la télévision jusqu'au moment où est arrivé Bodyguard. On avait attendu un certain temps et 2018, de ce point de vue-là, aura été une année intéressante du point de vue de la fiction dramatique politique. Il y a eu des années avant Bodyguard une série qui s'appelait A Very English Scandal, un scandale très anglais, et c'est une série qui racontait un scandale qui a vraiment défrayé la chronique dans les années 80. Il y a quelqu'un qui était donc un homme politique qui a essayé de tuer son amant puisqu'il ne voulait pas annoncer son homosexualité. Et effectivement, ça a été quelque chose qui a été maintenu sous le boisseau pendant très longtemps et ce n'est que maintenant qu'on relate ces faits. Et Bodyguard montre alors de son côté effectivement la réalité actuelle mais de manière quand même transférée sous forme de fiction. Donc le récit est fictionnel. Est une fiction
c'est ça.
Pure.
Et la série dont vous parlez, c'était Hugh Grant qui l'incarnait. Mais il y a eu aussi, par exemple, State of Play, la BBC en 2003, Jeu de pouvoir, c'était le titre en français. Paul Abbott, très grand scénariste, David Yates, grand réalisateur, 6 épisodes.
Effectivement, et ça vous donne bien la mesure de ce temps qui s'est écoulé justement entre ce travail politique et celui qui s'est fait très récemment. C'était sans doute la dernière série qui avait été faite, c'était en 2003. Ça fait quand même beaucoup de temps la télévision.
Alors, 6 épisodes, parce que Bodyguard, c'est aussi 6 épisodes. Comment parvenir à concentrer une intrigue aussi vaste et autant de personnages en si peu d'épisodes ? Ma première question, c'est à quoi on renonce ?
you have to give up on things, right?
Well, I like stories to move fast.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que le récit soit soutenu, qu'il aille vite. J'aime bien écrire de manière à ce que les gens aient envie de me suivre, envie de regarder la suite. Je veux que leur intérêt soit maintenu, qu'ils ressentent la tension qui va venir du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques instants. Et cette tension, ce risque, ce danger que vit le personnage, c'est quelque chose de très impuissant, très, très puissant dans la série. Évidemment, on n'a pas le même effet s'il y a davantage d'épisodes.
Si vous aviez une recette, une seule, à donner en matière de suspense, ce serait laquelle? Parce que je précise que Bodyguard, on ne peut pas respirer. Hein. En 6 épisodes, on ne peut pas respirer.
C'est difficile, je crois, de répondre à cette question, la recette du suspense. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que je place l'intrigue dans la période présente et aussi on fait quelque chose de très complexe avec des ressorts. On ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Pas de clichés, pas de comportement prévisible. On ne sait pas ce qui va se passer.
Pas de comportement prévisible. Je pense qu'il y a beaucoup de scénaristes et de producteurs français qui devraient s'en inspirer. La télévision publique, Jed Mercurio, a dit en France, c'est fini, c'est terminé, nous ne laisserons plus partir nos séries sur Netflix. Nous les avons financées, nous les avons produites, elles ne doivent pas servir à enrichir un géant américain. Quel est le point de vue de la BBC là-dessus? Je rappelle que Bodyguard, ça a été un grand succès de la BBC, maintenant c'est un succès mondial sur Netflix. Et quel est votre point de vue d'auteur, à vous, qui avez tant gagné en visibilité dans le monde entier grâce à Netflix?
Well, Netflix is streaming Bodyguard
Netflix,
worldwide,
effectivement,
outside of the UK.
Présente Bodyguard and pas dans le reste du monde, donc à part au Royaume-Uni. C'était une décision qui a été prise, qui est présentée sur la BBC, donc au Royaume-Uni, sur les services de streaming. Donc c'est une formule qui marche très bien, puisque les gens qui ne sont pas au Royaume-Uni ont la possibilité d'avoir accès à cette série, de la regarder, et nous sommes vraiment de très très contents, parce qu'effectivement il y a eu une réponse massive dans le monde entier à cette série grâce à cette possibilité. Et puis c'est vrai que aussi, si vous voulez, plus il y a de lieux où en tant qu'auteur vous savez que vous allez pouvoir être suivi, plus le terrain est fertile pour votre travail, parce que vous allez avoir des financements pour votre série dramatique.
Et la négociation avec la BBC, c'est-à-dire la BBC conserve les droits de Bodyguard pendant combien de temps sur le territoire anglais? Et est-ce que ce sont seulement des droits télévisés ou aussi des droits pour le streaming et pour la diffusion numérique?
The BBC has,
la BBC TV and streaming a les droits de streaming et de diffusion télévisuelle pendant une année à peu près.
Une année? It's short, c'est très court. C'est et ensuite, Bodyguard peut partir ailleurs.
It is short, yeah, but
oui,
I think
c'est très court.
The fact is that TV is something which, if it's got a life beyond its broadcast,
la télévision,
then,
de toute façon, si on maintient les choses trop longtemps au-delà de ce délai de diffusion, les gens auront d'autres voies d'accès par streaming sur Internet. De toute façon, et il y a beaucoup de séries qui marchent très fort et qui sont d'ores et déjà disponibles sur différentes plateformes sur un même territoire. Donc le public a différentes possibilités d'accès de toute façon. Donc il est intéressant, je crois, d'avoir une multiplicité de voies d'accès au travail que l'on fait quand on est quelqu'un qui écrit comme moi.
Merci beaucoup, Jed Mercurio. Merci à Hélène Joguet, qui était votre voix française ce matin. Alors, pour les Français, vous l'avez bien compris, les 6 épisodes de Bodyguard sont sur Netflix. La masterclass de Jed Mercurio et tout l'événement organisé par le festival Série à l'ambassade de Grande-Bretagne, m'a-t-on dit, est full booked, comme on dit en anglais, c'est-à-dire archi complet. Mais sachez que le festival Série reprend pour vous tous le 1er juillet à Fontainebleau avec la crème de la crème. L'équipe de l'instant M, c'est François Audouin, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella et notre technicien Mathias Alléon. Ce matin, merci à vous tous. Ali Rebéi.
Bonjour, je suis fasciné par les traducteurs-interprètes. Alors là, je suis béat d'admiration.
Fascinez-nous par votre sujet.
Alors,
la
psychologie doit-elle avoir une obligation de résultat? Doit-elle viser l'efficacité? C'est ce que défend notre invité, la psychologue Jeanne Ciot-Fachin. Vous pouvez nous appeler et réagir au 01.
Réagir,
exactement, 01 45 24 7000.
Drôlement réagir. Bonne émission.
Merci.